Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en décembre 2013 et c'est le numéro 29. Bonjour à tous. Ce mois-ci, je suis accompagné de celui dont on ne sait s'il a un tournevis sonique dans la poche ou s'il est content de nous voir, c'est le docteur Combe.
Salut à tous.
Félicitations, docteur.
Félicitations, docteur.
Merci, mais je souhaite rester proche de mon public, donc tu pourras m'appeler Combe pendant le reste de l'émission.
D'accord, ça marche. D'accord,
t'es venu avec ton tardis,
oui,
j'espère.
Oui, docteur.
Voilà, je dois partir tôt, d'ailleurs. Il y a une race alien qui demande...
Que tu la combles.
Tout à fait.
Au secours.
Donc bonsoir à tous.
Nous avons également notre maître Jedi, Michael.
Hello.
Celui dont le crâne luit de la sagesse des anciens, Yannick.
Ok, bonjour à tous.
Et on attend encore Callisto, qui ne paie rien pour attendre pour avoir un qualificatif à la con.
Ah, c'est son landspeeder qui lui fait une panne, donc on
voilà, il a un réacteur qui fuit ou quelque chose comme ça. Alors, au sommaire de ce numéro très en retard, puisqu'il n'en a pas eu pendant 3 mois, nous aurons donc Lady Blackbird par Yannick. Michael nous présentera un retour sur Star Wars Age of Empire, ainsi qu'une critique de Never Unprepared. Et enfin, Callisto nous parlera de quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi.
Quand il arrivera. Oublié.
Voilà, donc on verra ça quand il arrivera.
Une surprise.
Voilà. C'est une surprise. Donc, eh bien, sans plus attendre...
Oui, question. Il est passé où, Cyril?
Ah, mais oui. Oh, mais...
Je comprends pas. Tu sais, il y a le truc...
Ah, mais... ouais, d'accord. On passe à la suite, alors.
D'accord, mais le corps momifié, là, c'est la clé. Donc, eh bien, Yannick, tu vas commencer par Lady Blackbird.
Alors, on va parler de Lady Blackbird. Lady Blackbird est un jeu au format PDF qui est écrit par quelqu'un qui s'appelle John Harper. Et qui est traduit en français par Gauthe, donc Gauthier Lyon, qui sévit souvent sur Casus No et qu'on voit assez souvent en ce moment, et qui a travaillé sur le Merkbold la dernière fois. Et quelqu'un qui s'appelle Iragaël Malbos, que je ne connais pas. Ça doit être un pseudonyme.
Oui, non, bah, je veux dire charmant prénom, tu vois.
Je pense que c'est un pseudonyme. Le jeu est actuellement hébergé en français donc par les Écuries d'Ogias, sur le site des Écuries d'Ogias.
Ouais, c'est super bien ce qu'ils ont fait. Enfin, de proposer ça comme ça.
Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est un jeu gratuit. C'est un jeu qui fait 12 pages. Et 12 pages PDF, donc, et qui a l'originalité de présenter très succinctement un monde, une série de personnages pré-tirés, les règles, qui font un demi à 4. Et disons ce qu'on va appeler un scénario pour le moment. L'ensemble est censé pouvoir être utilisé facilement et rapidement pour jouer un one shot de, on va dire, 2 ou 3 séances sans préparation pour le MJ. En tout cas, la promesse, c'est qu'il n'y ait pas de préparation pour le MJ. L'univers lui-même, on va commencer par l'univers, donc c'est une sorte de mix magico-steampunk où on se balade sur des bateaux volants dans un espace gazeux qu'on appelle l'indomptable bleu, entre des planètes qui sont très rapprochées, enfin des planètes ou des espèces de trucs volants dans cet espace-là, qui sont extrêmement rapprochés. Il est dit qu'on peut faire un voyage entre les planètes les plus éloignées en moins de 6 semaines, donc ça permet de rapprocher un petit peu tout le monde, et dans cet espace appelé l'indomptable bleu, donc il y a des espèces de gaz corrosif sur lequel ces bateaux flottent, et en dessous de ce gaz corrosif, il y a les tréfonds, donc des endroits un petit peu interdits dans lesquels, si on arrive à passer cette couche corrosive, il y a des monstres qui s'y tapissent. L'ensemble de du background, il est très très court, ça fait aussi une demi-page à 4, donc je viens de tout vous dire en gros.
Ok.
et je vais vous dire pourquoi après.
Ouais, tel que tu le dis, ça fait un peu la planète au trésor,
carrément, c'est le dessin animé Disney, ouais.
Ouais.
Ouais, c'est un peu la planète au trésor, mais avec des trucs un petit peu plus gore. Moi j'aime beaucoup l'évocation en fait. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 illustrations qui sont assez sympas à l'intérieur. Le background, il est disséminé un petit peu partout, c'est-à-dire dans cette demi-page dans laquelle il n'y a pas grand-chose, mais aussi dans la description des personnages, etc. Les personnages, justement, on va en parler tout de suite. On joue que des personnages pré-tirés. Il n'y a pas de système de création de personnages. Et de toute manière, vous allez voir que tout est prévu pour qu'on joue ces personnages-là et pas d'autres. Enfin, en tout cas, au début. Ils sont décrits par 3 clés. On appelle ça des clés. Une clé, c'est un guide de roleplay. Ça donne des indications sur le personnage, sur sa manière de réagir aux événements. Ça sert notamment à gagner de l'expérience ou à remplir ce qu'on appelle la réserve de dés pour réussir des actions extraordinaires. Pour avoir plus de dés pour mieux réussir. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un truc qui s'appelle la clé du gardien, qui est possédée par le personnage du garde du corps, qui permet de gagner de l'expérience donc ou des dés, je vous ai dit, si ce garde du corps prend une décision influencée par son patron, qui est Lady Blackbird. Ou alors, par exemple, quand le garde du corps protège son patron ou sa patronne d'une attaque physique. Dans ce cas-là, elle peut activer sa clé et elle va gagner soit un point d'XP, soit un dé à rajouter dans sa réserve. Comme c'est un one-shot, les points d'XP, c'est pas fondamental, c'est pas très grave. Dans d'autres jeux, j'aurais dit, c'est quoi ce bordel ça va pas du tout. Mais là, c'est pas très gênant. Les clés peuvent être rachetées. C'est-à-dire que pour chaque clé qui est décrite sur la feuille de personnage, il y a une condition de rachat, c'est-à-dire une action qui, si elle est mise en place, si elle est mise en œuvre par le personnage, permet de l'effacer. C'est-à-dire qu'on dit, bah là, la clé du gardien, par exemple, on l'efface complètement. Et en échange de cette action-là extraordinaire qui modifie un petit peu le sens du jeu, et ben dans ce cas-là, le personnage gagne un gros pool de points d'expérience d'un seul coup. Par exemple, il y a un personnage qui a une identité secrète. Il va gagner de l'expérience à chaque fois que son identité secrète est jouée, ou alors si le personnage se met en danger pour la conserver. Et puis d'un coup, s'il décide de la révéler, hop, il va gagner un gros pool de points d'XP. Mais en échange, il ne pourra plus gagner de points d'XP ou de dés de réserve en le jouant normalement. Okay, donc c'est un espèce de trade-off, comme ça, une espèce d'échange qu'il faut décider, qu'il faut mettre en scène. Donc c'est assez intéressant parce que les clés, c'est vraiment fondamental. Hein, c'est ce qui permet de typer le personnage et de déterminer un petit peu son roleplay, en fait, ce qu'il est capable ou ce qu'il a envie de faire. Alors pour moi, c'est pas précisé spécifiquement dans le bouquin, mais je pense qu'il faut le placer correctement dans le roleplay pour que ce soit intéressant, le fait de racheter la clé. Sinon, t'es comme ça, tu commences à virer toutes tes clés à chaque fois. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc il faut quand même essayer de le placer correctement. Les personnages ont aussi deux secrets. Alors, c'est un mot un peu bizarre pour dire qu'ils ont des pouvoirs spéciaux. Les secrets, c'est des pouvoirs spéciaux. Genre, le garde du corps, il a un truc qui s'appelle le secret de la destruction. Ça lui permet de casser n'importe quoi, enfin un objet sans jet, comme ça, hop, à main nue. Donc on va dire, tiens, je voudrais casser une porte, je voudrais casser, je sais pas, une table, un truc comme ça. Il n'y a pas de jet, il le fait, il réussit. Dans ce jeu, tu joues des personnages bigger than life. Donc vraiment, tu joues des héros, des vrais héros, pas des niveau 1 qui se cherchent, à qui on a promis un héroïsme plus tard. Non, là, tu joues le personnage à son apogée, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les secrets. Ensuite, il y a des traits. Les traits sont des ensembles de choses que le personnage maîtrise. Par exemple, affûté, ancien esclave, gladiateur, maître sorcier. Tout ça, ce sont des traits. Et pour chaque trait, il y a une liste d'étiquettes qui sont des dérivés de ces traits. Gladiateur, par exemple, ça va donner brutal, mon corps est une arme, fort. On est assez habitué à ce système.
J'aime
les corps huilés, enfin bon, des choses comme ça. T'as une série de traits qui sont possédés par le personnage lorsque tu en prends possession, et t'as une série de traits qui sont indiqués entre crochets, qui sont des traits que tu vas pouvoir acquérir par l'expérience pendant le jeu. En fait, tu vas gagner l'expérience pendant le jeu, de la manière que j'ai déjà décrite, et tu vas pouvoir les dépenser quand tu veux pour acheter ces traits-là, même si, il n'y a pas besoin d'attendre ou n'importe quand. Voilà.
D'avoir un temps de repos, on s'en fout.
Tu payes dès que tu veux. Tu payes dès que tu veux, tu l'actives quand tu veux. De toute façon, c'est des trucs qui sont assez logiques entre guillemets, et dans une optique très série télé, bah hop, ça surgit comme ça au moment où ils en ont besoin. Le système de jeu lui-même, il est très simple. Lorsqu'on fait un jet, lorsqu'on a besoin de faire un jet, on se crée une poignée de dés. On prend d'abord un dé, tout court, et on ajoute un dé si un trait correspond à l'action en cours. Mm-hmm. Un dé par étiquette, qui colle au jet. Typiquement, si tu veux faire un jet de combat, tu vas prendre gladiateur, plus éprouvé combat, plus brutal, plus fort, etc. Enfin, à partir du moment où tu arrives à plus ou moins le justifier. Avec tout ça, tu peux ajouter des dés de ta réserve. Au départ, tu as 7 dés dans ta réserve. Tu vas pouvoir prendre des dés autant que tu veux. Si... le jet est... Alors ensuite, tu lances tes dés. Chaque dé qui fait 4, 5 ou 6 est un succès, et plus t'en as, mieux c'est. La difficulté d'une action, elle est déterminée en fonction du nombre de succès que tu dois obtenir pour la réussir. Un truc très simple, faut obtenir 2 succès. Un truc très compliqué, faut obtenir 5 succès. Statistiquement, faut arriver, par exemple, pour 5 succès, à rassembler 10 dés. C'est pas forcément évident si tu mets pas des dés de ta réserve. Un petit élément intéressant, c'est que si tu réussis ton jet, les dés de ta réserve sont dépensés. Il faudra les récupérer plus tard lors d'une action dite de récupération. Et par contre, si tu rates ton jet, non seulement tu gardes les dés de ta réserve, mais en plus tu en gagnes un supplémentaire. Elle se re-remplit comme ça si elle était un peu vidée. Donc ça donne aussi du sel. Ça t'autorise par exemple à faire des jets dans lesquels t'es pas bon, juste pour foutre la merde et récupérer des dés de réserve.
Ça, c'est l'optimisateur qui parle.
Non, c'est, non, 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 c'est précisé pour une, dans, dans les quelques.
C'est fait pour, en fait.
C'est fait pour. Enfin, vraiment, c'est fait pour. Et c'est fait pour inciter aussi. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est assez basique, hein, le système de jeu. Vous avez compris. Il n'y a rien de, de vraiment complexe. Les personnages sont, sont des personnages grandiaux. C'est vraiment des personnages de films d'action. C'est, pas Luke, c'est Han Solo et Leia. Pourquoi pas Luke? Bon. C'est Han Solo. C'est, ouais, des personnages comme ça. Faut savoir qu'ils réussissent toujours, quasiment toujours leur action. Et même quand le jet est raté lui-même, l'action peut quand même réussir. En fait, ils disent, un petit peu comme dans Apocalypse World, quand tu rates un jet, c'est pas tant que tu rates ton action elle-même, mais il va y avoir des complications, il va y avoir des problèmes.
Et c'est c'est le 7-9 du système Apocalypse.
Comme, ouais, c'est le 7-9, ouais.
Comme avant Apocalypse World, dans Mouse Guard.
Je dis Apocalypse parce que je l'ai dans la tête et que je vais en parler après, mais en gros, c'est ça, oui, tout à fait.
Tu vois, hein, tu t'y es mis, hein, petit garnement.
Ouais, ouais, ouais. Je l'ai mis, mais j'ai compris ce qui allait pas. Enfin, ce qui allait pas, ce qui allait pas pour moi. Donc, l'idée, effectivement, c'est que quand tu as un échec au jet, en fait, on va pas rater l'action parce que, en vrai, les personnages ne ratent pas leur action. C'est Han Solo quand il pilote son véhicule au travers d'une ceinture d'astéroïdes, il s'écrase pas lamentablement contre un astéroïde. Il passe l'astéroïde. Par contre, s'il a raté son jet, il y a peut-être un astéroïde qui le touche, donc il y a un truc qui éclate à l'intérieur du vaisseau. Faut courir le réparer, etc. Donc ça ajoute en fait des obstacles aux obstacles. C'est-à-dire que le premier obstacle, on appelle ça des obstacles dans le jeu. Le premier obstacle, c'est passer la ceinture d'astéroïdes. Si il rate son jet, dans ce cas-là, le maître de jeu est invité à créer un nouvel obstacle. Ça peut être n'importe quoi, c'est fonction de la description du joueur. Et puis, ça va être, je te dis, un truc à réparer. Ça peut être, tiens, j'ai plus d'essence d'un coup. Il y a le truc, d'essence ou je sais pas quel truc énergétique qui fonctionne plus. Il faut aller se poser sur une planète rapidement. Tiens, il y a l'hyperdrive qui marche plus alors qu'on est, poursuivi par les impériaux, etc., etc. Je parle d'impériaux à dessein parce que c'est aussi un peu l'idée. Il y en a dans ce jeu. T'as un empire qui n'aime pas trop les gens. Alors, donc voilà, les personnages sont très très diversifiés. Notamment, moi j'aime beaucoup les gobelins dans le jeu, qui sont des espèces de créatures que vous connaissez, mais qui ont en plus des pouvoirs qui permettent de changer de forme, qui sont un peu fous, qui font des trucs très très amusants.
C'est des elfes de maison en fait.
Ouais, c'est des elfes de maison à qui il arrive plein de trucs. Mais sinon, t'as plein de choses dedans. T'as des sorciers, t'as des cyborgs, t'as des trucs steampunk chelou, t'as tout ce que tu veux. Alors, je vais parler ensuite du scénario, entre guillemets. Alors, c'est là que ça commence à déconner un peu. Pour un jeu qui se veut sans préparation, ça manque clairement d'explications. Le scénar, c'est simplement une suite d'obstacles contenant à chaque fois une liste de jets qui peuvent se présenter lors de cette situation et quelques escalades possibles. Par exemple, tu vas avoir un obstacle, s'échapper de prison. Voilà, ça c'est le scénario, il est marqué s'échapper de prison. Tu vas avoir une liste de jets éventuellement à faire. Par exemple, jet pour crocheter une serrure, jet pour péter la porte, jet pour combattre les soldats. Et en...
Alors je t'interromps juste une seconde car Callisto est enfin arrivé. Ah, le plus grand d'entre nous.
Oui, qui vient du plus au sud peut-être d'entre vous.
Non, voilà. Ah oui, sud, oui. Oui, c'est vrai.
Bon, excuse-nous, est-ce que tu veux bien reprendre?
Tu parlais du scénario et s'échapper de prison.
Comment s'échapper de prison, effectivement. Donc je vous disais que c'était une série d'obstacles. S'échapper de prison, donc c'était un obstacle. Qu'il y avait une liste de jets qui étaient décrites dans cet obstacle. Par exemple, je disais jets pour crocheter une serrure, jets pour arracher une porte discrètement, jets pour combattre des soldats, etc. Et il y a quelques exemples d'escalade. Je vous rappelais ce que c'est les escalades, c'était il n'y a pas si longtemps que je vous l'ai décrit. C'est ce qui peut se passer lorsqu'un jet est raté. Par exemple, il peut y avoir une alarme qui est déclenchée, il peut y avoir typiquement le mec qui rate son jet pour arracher la porte. Alors, s'il y a la garde du corps, on a compris que il n'y avait pas de jet à faire, mais par exemple, si elle veut le faire silencieusement, le MJ peut dire, bon bah voilà, tu fais du bruit et ça déclenche une alarme, tu peux séparer un membre du groupe, etc. Donc il y a quelques petits exemples, en fait à chaque fois c'est juste des exemples. Et le scénario lui-même, au complet, c'est 6 obstacles qui sont décrits dans le scénario, et le tout sur une demi-page à 4 encore. Autant dire que je suis pas à fond sur le truc, moi. C'est peu, mais bon, voilà.
Ouais, et c'est exactement la réflexion que je me suis fait en lisant.
Ouais, c'est un petit, voilà. Et l'autre demi-page, c'est les conseils de maîtrise qui sont fondamentaux pour moi. Enfin, vraiment, ce serait important qu'ils y soient. Et en l'état, pour moi, alors je vais sans doute être contredit par Callisto, mais c'est juste incompréhensible. Et je vais dire pourquoi.
Je peux te poser une question quand même sur le système tout à l'heure. Tu parlais des clés ou en disant qu'on pouvait les racheter et tout ça, mais on peut après en acheter de nouvelles.
Ouais. Alors il y a une série de clés supplémentaires à la fin de l'ouvrage. Il y a une série de secrets supplémentaires aussi. C'est parce que tu peux acheter des secrets et tu les achètes avec des prérequis. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, si t'as parcouru le bleu, l'indomptable bleu de long en large, tu peux acheter les secrets du, je sais plus comment ça s'appelle, du voyageur, par exemple, qui te permet de connaître plus facilement les coins, etc.
Donc tu trade off, mais après tu, pour retyper le personnage, ouais, tu prends d'autres secrets et d'autres clés.
Tu prends d'autres secrets, d'autres clés qui d'accord. te permettent de faire évoluer ton personnage au long de son
parcours. Ça me paraît logique. Ouais.
Alors, justement, pour continuer sur cette histoire de clés, moi, il y a un truc que je vois pas bien, c'est comment tu choisis le moment où tu vas la vendre en fait.
Alors
parce que ouais. c'est soit le MJ te propose des conditions c'est idéal. Alors, dans une situation
je vais le dire juste après, mais en fait ouais. le MJ te propose rien du tout et tu vas voir pourquoi.
D'accord.
C'est à un moment ça va se présenter, ou si toi tu commences à te dire bon bah c'est bon, je pense que ça peut être un bon moment pour le placer, en fait tu vas créer les conditions qui vont te permettre de le faire.
C'est vraiment au feeling, en fait.
C'est au feeling, et c'est en fonction de la construction collective. Mais ça, ça fait partie, justement, de la manière dont est joué Lady Blabber, parce que c'est pas un jeu de rôle commun, au sens où on peut l'entendre quand on a un certain nombre d'années au compteur. Ça fait plutôt des parties des jeux, justement Apocalypse World, dont je parlais tout à l'heure, qui présentent une manière différente de maîtriser et, on va dire, de construire l'histoire ensemble. Alors, justement, Alors, je vais d'abord parler, excuse-moi, des conseils de maîtrise. Moi, j'étais vraiment déconcerté à la lecture. C'est-à-dire que les informations sont présentées globalement n'importe comment. Il y a sans vraiment souci de pédagogie. Alors, tout ce que je viens de vous expliquer jusqu'à maintenant, ça commence vraiment à s'éclairer, lorsqu'on a lu au moins deux fois le document. C'est-à-dire une fois à l'endroit. Une fois à l'envers, une fois qu'on a compris un certain nombre de concepts.
Ce qui est balèze quand même sur 12 pages, quoi. Enfin,
non, mais tu vas voir. C'est vraiment.
C'est souvent ça avec tout ce qui est un peu jeu indie et compagnie. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais comme on les relit plein de fois, c'est comme si on avait un gros bouquin, sauf que ça prend moins de place.
Ah, c'est l'astuce, en fait.
La conclusion à laquelle j'en étais arrivé, en discutant un petit peu autour de moi, c'est que manifestement, c'est un jeu qui est fait pour être joué. Et que lorsqu'il a fallu le.
Quelle drôle d'idée.
C'est un jeu qui est fait pour être joué. C'est-à-dire que le mec a dû faire ce jeu un peu à l'impro, comme ça. Et quand il a fallu l'organiser, l'écrire,
ouais, formaliser,
il a un peu balancé comme ça.
Balancé comme ça, il y a quand même des éléments, je trouve, qui sont super précis. Enfin, genre les clés, tout ça, il a pas créé ça à la volée, a priori.
Non, les clés, c'est super précis, mais c'est l'organisation. Je pense que le mec, il a écrit un petit peu comme ça. J'invente, hein, je sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai l'impression qu'en fait, il avait dit, tiens, mes prêt-tirés, c'est ça. Sachant que c'est des prêt-tirés pour nous, ça se trouve, c'est des personnages qui avaient été construits par ailleurs. Hop, je les mets comme ça, je les écris comme ça, voilà, le système, c'est à peu près ça. Et puis après, c'est un peu, tu vois, il en avait un peu rien à foutre de ce qu'il y avait après. Et clairement, ça aurait mérité une dizaine de pages de plus. Typiquement, quand j'ai discuté avec Gauthier, il m'a donné des informations que il n'y avait pas dans le bouquin. Il y a des sites web de gens qui en parlent et qui effectivement développent le truc.
Il y a des compléments.
Il y a des compléments, il y a des choses comme ça, parce qu'on se rend bien compte que la première lecture, c'est juste pas ça. Par exemple, la manière de jouer, que je vais décrire après parce que c'est très important, elle n'est pas expliquée, ou très peu. Par exemple, les conseils de MJ qui sont censés le faire, t'expliquent quoi faire en général, mais uniquement si t'as déjà compris. C'est-à-dire si t'as pigé comment ça se joue, et ben dans ce cas-là ils te disent ah oui, alors, vous savez comment ça se joue, donc faites comme ci, faites comme ça, ça va vous allez comprendre, etc. Donc c'est un peu chelou. Alors, il semblerait que je sois pas le seul. Manifestement, Gauthier il a eu une extrêmement bonne idée à mon sens, et je vais le répéter plusieurs fois. Il a sorti un supplément franco-français qui s'appelle Lady Blackbird pour les nuls. Donc c'est pas mal du tout, et les conseils qui sont dans ce Lady Blackbird pour les nuls sont tirés des presque 20 pages de discussion sur le forum de Cassius Snow, d'autres ressources, des blogs, des discussions qu'il a eues, des retours de parties, etc.
Donc, je mettrai tous les liens qui vont bien.
Ouais, bien. Bah, de toute façon, c'est au même endroit. Les écuries d'Ogias hébergent aussi ce supplément-là. C'est mis en page de la même manière que Lady Blackbird, donc en plus de ça, c'est
super beau.
C'est super beau, ça va bien avec. Et c'est effectivement plein de conseils de bon sens, des conseils qui décrivent un petit peu comment on fait, etc. Et donc ça t'aide à appréhender un petit peu le truc. Mais bon, faut quand même lire ce supplément-là qui doit faire autant de pages pour essayer de comprendre comment ça se joue. Et même comme ça, il manque une partie, on en a convenu aujourd'hui avec Gauthier, ils vont sans doute l'améliorer ça. Il manque une partie sur comment lire le bouquin de base. C'est-à-dire par où commencer. Et je vais dire un truc.
C'est incroyable.
Non, mais c'est tout con. En fait, c'est tout bête. Ils auraient mis deux phrases en disant au début, vous jouez des personnages pré-tirés spécifiques dans un univers avec un vaisseau qui vole dans l'espace, et vous allez faire des aventures extraordinaires en narration partagée. Rien que ça, ça te permet de rentrer dedans sans être perdu. Parce que là, tu sais pas, en fait, tu démarres direct par il y a un empire qui est sur telle planète, il y a du gaz, et puis voilà, et tu sais pas ce que tu joues, tu sais pas comment ça fonctionne. Et après, t'as la description des pré-tirés. Alors tu dis, mais c'est quoi, c'est des pré-tirés? Alors dans ce cas-là, où est la création de perso, enfin, tu vois? Et tu comprends après qu'en fait, il n'y en a pas, puisque tu joues que des pré-tirés, en fait. Et tu peux pas jouer autre chose. Donc moi, j'étais perdu.
En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le côté dommage de Lady Blackbird, c'est que ça n'a pas été écrit par un pédagogue, ou en tout cas, il n'y a pas eu de réflexion pédagogique sur la façon de présenter le jeu, et il l'a présenté un petit peu comme les choses se sont faites en écrivant, au fil de la plume,
je crois que c'est plutôt pas un
que
le
structuré.
En fait.
Je crois que
c'est un ensemble de notes. Moi, je le vois comme ça. Après, tu peux. Évidemment, j'ai pas là. C'est pas moi qui dessine aussi. Moi, je l'ai vu comme un ensemble de notes vaguement organisées. Voilà. Alors. Ouais.
Non,
il va te gifler, c'est tout.
Non, pas du tout. Pour moi, c'est un jeu de rôle parce qu'effectivement, d'autant plus avec tout le système de clés, donc des motivations des personnages qui sont récompensées directement dans le jeu, que tu joues à fond quand t'as envie. Et à un moment, tu dis voilà, j'en ai marre de faire l'amoureux caché. Bah, pof, je révèle mon amour à Lady Blackbird.
Ouais,
je gagne, mais de quoi
investir
dans des nouvelles clés, réorienter mon personnage. Et à partir de ce moment-là, on a le choix complet de l'évolution qu'on va lui faire. Est-ce que je choisis d'investir dans des compétences? Est-ce que j'apprends des secrets parce qu'il y a le cadre du jeu qui me le permet? Est-ce que je choisis des nouvelles clés?
Alors, ce que tu décris là, c'est très difficilement compréhensible à la première lecture et même à la deuxième lecture quand t'es MJ. Ça, moi, je l'ai compris. Je te dis, après avoir passé du temps à discuter avec des gens qui savent, qui sont déjà passés par là, ou encore une fois, qui l'ont joué. C'est-à-dire que tous les gens qui m'ont dit c'était super bien, et je l'ai vu sur les forums parce que j'en ai discuté un peu, sont des gens qui avaient commencé en jouant le scénario, c'est-à-dire qu'ils ont joué en convention ou ils ont joué avec des gens qui savaient, et après ils ont dit waouh, c'est absolument génial, où est le jeu? Et à ce moment-là, oui, ça va, parce que t'as compris le principe. Mais quand t'as pas compris le principe, tu mets du temps à...
Bah, exactement comme les joueurs à la fin de la première partie peuvent te dire c'est bon, on leur joue, parce que tu vas dire c'est la même histoire, c'est le même personnage, mais ça ne peut pas être la même histoire.
Ouais, ça peut pas être la même histoire, et justement j'en parle maintenant de la manière de jouer. Alors l'idée de base,
en fait, il y avait pas de dire ce qui pêche dans le jeu quand j'entends les deux sons de cloche, c'est que d'un côté, ce qui pêche réellement, c'est un souci de direction éditoriale. Il y a pas de direction éditoriale sur le jeu. Ça reste un très bon jeu, il y a plein de choses, mais il faut juste les remettre dans l'ordre pour que ce soit accessible à tout le monde.
Ouais.
Et pas avoir la nécessité de faire appel à un sachant qui va te transmettre comment jouer à ce jeu-là. Donc on revient aux origines du jeu de rôle, où t'as le MJ qui a le pouvoir et qui va transmettre ça aux joueurs. Et oui.
Alors c'est exactement ça. Alors pourquoi tu dis qu'effectivement ça va pas être la même histoire? Parce que l'idée de base de la maîtrise de ce jeu, et les joueurs d'Apocalypse World, encore une fois, vont se retrouver clairement en terrain connu, ils vont pas apprendre grand-chose, c'est que le MJ n'apporte pas nécessairement tous les éléments de la partie. Mais il demande aux joueurs de le faire. Et il pose des questions orientées. Alors je vais vous expliquer. Par exemple, les personnages vont rencontrer pour la première fois telle personne. Le MJ peut demander au premier joueur de quoi le mec a l'air. Bon, vas-y, dis-moi de quoi le mec a l'air. Le mec, il va décrire quelqu'un. Mais il sait pas pourquoi il va le faire, il va juste décrire un mec. À ce moment-là, le MJ doit prendre en compte cette description, l'intégrer, on va dire, à l'histoire, puis il va demander au deuxième joueur pourquoi le gars leur en veut. Particulièrement, il va dire... Alors toi, c'est une question orientée, parce qu'on dit pas est-ce que le mec t'en veut, on dit pourquoi le mec t'en veut. Et là, ça va être au joueur de décider, je sais pas, moi, je lui ai piqué sa femme, je lui ai volé de l'argent, n'importe quoi. Et le MJ va intégrer la description du joueur dans son histoire et va rebondir là-dessus. D'accord ? Donc on sait qu'il leur en veut, on sait pas pourquoi. Ensuite, il va demander au troisième, c'est qui les gars louches sur le toit d'en face qui ont l'air de surveiller la scène ? Et là, c'est le joueur qui va dire, mais est-ce qu'il nous surveille nous ? Est-ce qu'il surveille le gars ? Est-ce qu'il nous surveille tous les deux ? Est-ce qu'il surveille un troisième élément qui a rien à voir dans l'histoire et qui va foutre la zone ? Etc. Et le MJ va rebondir, le joueur va dire par exemple, bah non, les mecs ils sont pas forcément là pour nous, mais ils sont en train de surveiller, je sais pas, des mecs qui sont en train de racketter un marchand qui se trouve à deux rues d'ici. Sauf que nous, on s'en rend pas forcément compte. Évidemment, c'est du jeu de rôle, donc il faut. Ce que le joueur décrit, c'est pas forcément ce que son personnage sait.
Oui.
Ouais. Ok. Par contre, il va ajouter ces éléments-là dans l'histoire. Le MJ, lui, il va assembler tout ça. Bon, ok, le mec, tu lui as volé sa femme. L'autre, il surveille du racket, etc. Il va essayer de faire une sauce avec ça.
Et c'est comme ça qu'en fait, les quelques épreuves qui sont mentionnées dans le document sont très rapidement largement suffisantes parce qu'on bâtit énormément entre les épreuves.
Bah, en fait, c'est pas énormément. Tu fais quasiment que ça. C'est-à-dire que les obstacles
sont donnés à titre d'exemple. En fait.
Sont donnés à titre d'exemple. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait on a un début, moi j'aime bien ça, j'appelle ça des bulles de gameplay, j'en avais déjà parlé lors d'un précédent Radio Rollist, c'est-à-dire que t'as un début et une fin, alors là t'as un début et une fin de scénar, moi ce que je voudrais créer, ce que je suis en train de créer, c'est des bulles de gameplay de scène en scène, c'est-à-dire que je voudrais que la fin de la scène soit à peu près écrite, et ainsi de suite, là c'est une bulle de gameplay au niveau du scénario, c'est-à-dire qu'on sait comment il commence, on sait on veut qu'ils arrivent là, la manière dont ils y arrivent, c'est laisser finalement à la création complète.
C'est assez un scénario en collier de perles en quelque sorte.
Ouais, c'est un scénario en moi je dirais pas en collier de perles, mais en cadavre exquis, quoi, un petit peu. Tu vois, chacun, c'est un peu un mélange comme ça. Donc le rôle du MJ, c'est pas vraiment de créer les éléments de la scène ou de la partie, mais c'est de les assembler et d'apporter le lien qui va permettre de faire tenir tout ça ensemble. T'es d'accord avec moi là? En gros, on sait que les personnages, donc, doivent, comme je l'ai dit, ils doivent aller là, voilà, mais on sait pas comment, on a aucune idée des péripéties qui vont être vécues en chemin. Le MJ non plus, évidemment. Parce qu'il est pas là pour les créer, lui, hein, il est vraiment là pour rebondir. Si tu rates un jet, tu vas quand même réussir ton action, mais on va imaginer, et tu peux même demander à un joueur, bon, ok, là, t'as raté ton jet de pilotage au travers des astéroïdes, tiens, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça va ouvrir un débat après. Donc, on place de l'MJ dans un rôle différent de d'habitude. Il se transforme en joueur. Il était déjà joueur, mais on le fait redescendre. C'est pas redescendre ou remonter, mais disons qu'on le place à proximité, un peu plus à proximité des joueurs qu'il pouvait l'être avant. Et il est moins démiurge qu'avant.
Il est proche des joueurs, il est animateur et il a un peu de hauteur néanmoins pour essayer d'aller vers la suite aussi.
En fait, quand il fait vaguement de la mise en scène, en fait.
Il fait de la mise en scène. Il se concentre sur un rôle de mise en scène, mais clairement, on lui enlève son rôle de scénariste.
Ouais.
On lui enlève son rôle de créateur. Enfin, on lui enlève, disons qu'on le réduit à peau de chagrin. Et par contre, on remet à sa place celui d'arbitre.
D'animateur.
Arbitre, animateur, qui va rebondir sur ce que les autres ont créé. Donc, beaucoup aussi d'imagination, de créativité sur le moment d'improvisation. Un peu comme ce qu'on demande aux autres joueurs d'habitude, quoi, en fait. C'est quelque chose du coup, que j'apprécie beaucoup dans la maîtrise.
C'est vrai que là, c'est le type de jeu où le MJ, il est. Il est co-créateur de l'histoire.
Et a priori, je
pense qu'il doit s'amuser beaucoup plus.
Alors justement, je vais vous faire part d'une expérience. Ouais. Alors donc, toute la difficulté pour moi de cette manière de faire, c'est, ça tient dans une phrase, c'est jusqu'où aller trop loin. Mmh. Alors je vais vous donner un exemple dont j'ai déjà parlé à quelques amis autour de cette table. Il y a quelques semaines, j'ai fait jouer une partie d'un jeu en test qui s'est terminé assez rapidement. La partie était mal prévue de ma part, c'était trop court.
3 morts.
Non, pas de morts, mais la partie elle s'est terminée en 1h30, 2h, quand on avait prévu la soirée. C'est vrai que c'était un petit peu court, les joueurs étaient un peu frustrés, donc ils m'ont demandé de faire autre chose. Moi, évidemment, j'avais rien préparé, donc en buvant de bière, je commençais à discuter, on discutait un petit peu de tout et n'importe quoi, et je leur parlais d'Apocalypse World, à quel point c'était détestable, etc.
On te retrouve.
Alors, il l'a casé, c'est vrai.
Et donc, ils m'ont...
Tu vis un amour contrarié avec ce jeu.
C'est clair, et tu vas voir. Donc on en parle, je leur dis, c'est tout, ils disent, mais c'est quoi exactement? Donc je leur dis, voilà, c'est un peu pourri, il suffit de poser des questions aux joueurs, le MJ il a rien à faire, d'ailleurs tiens, je vous fais un petit exemple, vous êtes en prison, et puis voilà le jeu, je leur décris le jeu, je leur dis, voilà le jeu, il suffit que je pose une question à un tel, vous êtes qui? Et la personne commence à me répondre, le joueur commence à me répondre, à quoi ressemble la prison? Bon bah il y a de l'eau partout, il y a ça, puis on sent qu'on doit être, on sent les embruns, donc on doit être dans une prison dans la mer, ok. Et puis bon, je pose la deuxième question, à quoi vous ressemblez? Ah bah on est des éco-terroristes qui sont faits de Greenpeace, qui sont fait choper par les Russes de Gazprom. Ah bon bah ok.
Vache.
Et la troisième question, c'est t'entendre le bruit dans le couloir, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah bah ça doit être le garde qui se bat contre son collègue parce qu'il lui a piqué sa femme. Je fais, voyez, ouais, ça se passe comme ça. Et puis il me regarde avec des grands yeux, genre, la suite c'est quoi? Et au final, j'ai embrayé, comme ça, et j'ai absolument rien fait. Mais rien, d'une force. Je sais pas comment te dire à quel point j'ai rien à faire. C'est-à-dire que moi j'ai juste posé une situation, donc vous êtes en prison, j'ai posé des questions, et toute la suite ça a été de la pure impro. C'est-à-dire qu'on avait strictement rien préparé, aucun évidemment. À chaque fois que les mecs ouvraient une porte, ils me disent, ah tiens, voilà, on est dans la salle de garde, j'ouvre la porte, qu'est-ce que je vois? Moi je lui dis, bah je sais pas, qu'est-ce que tu vois? Alors elle me dit, bah je vois un couloir, et puis ça donne sur une serre avec des plantes. Bon bah ok. Et moi j'improvisais là-dessus.
Et Yannick, est-ce que ça t'a plu?
Alors justement.
Non, parce que c'est ça la vraie question, indépendamment du jeu, c'est parce que ça nous ramènera après Apocalypse World, mais est-ce que ça t'a plu toi en tant que MJ?
Attends, il faut qu'il mûrisse sa réponse et tout.
Alors, pas trop vite.
Alors, ça c'est un seul aspect d'Apocalypse World et c'est un seul aspect de Lady Blague.
C'est bon, il va s'en sortir. Bien ouais,
c'est une partie du système. Bien ouais, mec.
Et c'est ça que tu peux ressortir et que tu peux mettre dans notre jeu. J'ai utilisé quand même un système de résolution très simple, que j'ai utilisé un seul move d'Apocalypse World. Je dis, sur 6 mois vous ratez grave, vraiment grave, sur 7-9 vous réussissez mais il y a un désavantage, et sur 10+ vous réussissez parfaitement, il n'y a pas d'échec simple. unique move pour tous leurs jets, ils avaient 0 ou plus 1 s'ils considéraient que leur personnage il était balèze dans ce truc là. Et ça a été tout, ils ont fait 4 jets chacun dans toute la partie. La partie elle a duré 1h30 à peu près, donc autant que mon jeu qu'on s'est fait chier écrire depuis longtemps. Les joueurs se sont vraiment éclatés, ils se sont vraiment amusés. L'ensemble ça a donné une espèce de truc contemporain fantastique qu'on n'aurait pas vraiment dépareillé dans Delta Green. Donc en plus on a créé un vrai scénario qui se tenait à peu près debout. Et on l'a mal fini parce que bon voilà, je manquais d'idées à ce moment-là, on manquait un peu d'idées à ce moment-là, mais disons que ça s'est quand même bien passé. Moi j'ai aimé, mais je me suis emmerdé d'avoir aimé parce que j'ai jamais alors je veux dire pourquoi, en fait j'ai jamais autant ressenti le fait d'être un imposteur.
Voilà la vraie, en fait c'est là où on tient le vrai truc pour savoir pourquoi il a du mal avec Dungeon World et Apocalypse World. C'est parce que
j'ai pas de mal en tant que joueur,
c'est parce que allonge-toi sur ce divan,
c'est parce qu'il a pas l'impression d'être MJ quand il maîtrise un jeu comme ça. Et en lisant comme il lit les jeux, et il lit les jeux pour les maîtriser, son vrai problème à Yannick, c'est pas le jeu en tant que tel, c'est le rôle qu'on donne dans le jeu qui lui convient pas. C'est pas un vrai MJ. Un vrai MJ, il est demi-urge, il organise le truc, il écrit le scénar, il fait tout ça. Voilà, et là, on lui pique son rôle de scénariste, et ça, il a du mal à le gérer. La mécanique, elle est... simpliste, et il aime bien les mécaniques qui sont bien branlées.
Je suis pas complètement d'accord avec ça.
Non, mais je grossis très volontairement. J'ai pas dit que je suis d'accord avec ce que je dis. J'essaie d'expliquer ce que je pense.
Tu essaies de comprendre la psychologie.
On est dans la tête de Yannick, là. Cher auditeur, et donc là, c'est le prochain, le four, la psychanalyse de Michael.
Attendez, on n'est pas obligé de psychanalyser.
Non, mais c'est pour comprendre. Parce qu'en fait, sur le podcast de la cellule, il y a pas extrêmement longtemps, ils sont passés à Apocalypse World aussi. Et il y a eu un retour, quelqu'un qui justement on considérait que c'était pas de la vraie maîtrise, etc. Je lui ai fait une jolie réponse mais pas agressive du tout, mais juste pour expliquer. Moi qui suis dans ce rôle là de MJ animateur,
salut Connor.
non, même pas
gentil, mais et tout.
Ouais, ça va être faut chercher à fumisterie apocalyptique ou un truc comme ça, parce qu'il trouvait que c'était un travail de fumiste en fait.
Ah, moi c'est un putain de travail de fumiste,
et j'ai essayé d'expliquer avec mes mots voilà pourquoi, comment et qu'est-ce que c'est, etc.
Alors
moi, je foutrais un lien
en vrai, c'est que quand tel que je l'ai toujours vécu jusqu'à maintenant, j'ai toujours considéré qu'effectivement, Michael a quand même un peu raison au final.
Merci.
C'est vrai, t'as quand même un travail à porter, t'as quand même des trucs à faire. Et de plus en plus, effectivement, on trouve des systèmes qui nous permettent de nous éloigner de ce rôle, de moins en moins préparer, etc. Et moi, le premier, de préparer des choses qui font ça. Là, on a basculé. C'est-à-dire que, à force de chercher, on a trouvé le truc. Pour moi, c'est vraiment, c'est bon. En vrai, c'est bon. C'est un bon truc, c'est un bon système, et ça permet vraiment de faire ça. J'ai du mal à voir sur la longueur ce que ça donne, le contrôle. Bon, on voit avec les parties de Dungeon World que finalement ça tourne à peu près. On avait déjà testé sur les Royaumes Troublés un truc similaire. Eric Niedon est un peu un spécialiste de ce genre de trucs.
C'était avec Puddle.
C'est une feignasse en fait.
Ouais, mais en fait, avec quoi que ce soit, le système, comment on appelle ça, le concept tient encore. C'est pour ça que je veux pas qu'on l'attribue à Apocalypse World, parce que ça existait avant, que ça continue.
Oui, bien sûr.
Et voilà.
C'est juste une grosse compile. C'est juste un gars qui se dit tiens, il y a ça qui marche.
Dans un
cadre bien précis.
Enfin, je le formais mal d'ailleurs.
Et ses enfants, il a de nombreux enfants, entre guillemets, et c'est certainement de nombreux enfants qui sont meilleurs que lui-même.
Exactement.
En soi, parce que notamment plus pédagogue.
Contrairement à Baker, Baker écrit pas si bien que ça pour bien structurer, et c'est toujours le problème. Et les mecs qui ont suivi derrière, notamment Dungeon World, ont fait un meilleur boulot que lui.
Sage Latora et Adam Kebel, ils ont fait vraiment un boulot.
C'est pareil aussi pour Monster Heart et Saga of the Islander qui sont des limpides, clairs. Et
si Baker avait pas lancé le mouvement pour lancer le truc, les autres n'auraient certainement pas suivi.
Alors,
c'est bien.
J'ai toujours du mal avec les jeux qui emportent énormément d'adhésion de manière, entre guillemets, un petit peu exagérée pour moi. C'est-à-dire qu'Apocalypse World, à un moment, ça a été la grosse vague pendant 3 mois ou 4 mois.
Non, ça continue.
Plus. Lady Blackbird, il y a eu un petit coup de chaud à un moment en 2012, c'était marrant. Et donc toi, j'ai toujours un peu de mal. Je me dis attends. Moi, je prends ma casquette de vieux con. Je fais hop là. on scamme les enfants. Expliquez-moi la
casquette. Tout en lustrant ton crâne.
Tout en lustrant mon crâne. Je fais
un mouchoir à carreaux.
Donc
On se moque comme ça, mais d'un autre côté, c'est pas évident de changer la façon dont on maîtrise après l'avoir pratiqué de longues années, d'arriver sur un système qui est résolument différent de la façon dont on fonctionne. Même si on est les premiers à se plaindre parce que la préparation c'est chiant à faire. Après, on est super content de la maîtriser. Et là, c'est différent.
C'est le jeu que j'attendais. Tu vois.
Ouais, moi, c'était en 2011. Ça faisait 10 ans que je lisais des jeux de rôle en me disant oh, c'est de la merde, de toute façon, et compagnie. parce que ça, quand j'étais au lycée, j'avais déjà une pratique qui n'était pas tout à fait normale. Attention. Et du coup, en fait, quand je suis tombé hélas. Et quand en 2011, en gros, je suis tombé sur des Smallville, des Apocalypse World, etc., moi, j'ai fongé, j'ai engouffré dans la brèche.
Attends, je suis à fond pour toutes. j'allais dire ses expériences pour tester des trucs, pour découvrir des nouveaux systèmes. Et justement, pour quelqu'un qui est super, j'allais dire ouvert d'esprit, mais c'est un peu prétentieux de dire ça, qui aime beaucoup justement voir différents systèmes, voir différentes manières de jouer, etc., qui vont en convention et tout, je me dis putain, si moi je galère, enfin je galère, disons que j'ai une appréhension vis-à-vis de ça, moi mes joueurs, faut juste oublier quoi, tu vois.
Ouais, mais
et à mon sens, beaucoup de joueurs aussi, c'est-à-dire que. Moi déjà mes joueurs, j'en souviens, je leur avais proposé des expériences narrativistes avec Feng Shui.
Ouais.
et ben déjà ça avait été compliqué. Ça avait été compliqué.
Ouais. Donc, mais d'un autre côté, si t'y vas pas convaincu tout de suite,
oui, si t'y vas,
c'est beaucoup plus difficile. Ce que je veux dire, c'est que c'est les joueurs de base, ils sont habitués à jouer d'une certaine façon. Aussi, il faut un peu les brusquer. Ouais. Et si t'as déjà du mal à te brusquer toi-même, c'est difficile de brusquer les joueurs dans la foulée.
J'ai toujours apprécié ça. Là, c'est juste que on a avec ces deux derniers jeux. On a basculé, c'est ce que je cherchais, et maintenant que je l'ai.
Tu sais pas trop si.
Ouais, je suis un peu emmerdé.
En fait, je regrette.
Pas forcément, je regrette pas. Encore une fois, la partie qu'on a faite était super, je vois plein d'avantages.
Ouais. C'est avec ton groupe de joueurs habituel. Moi, par exemple, tu vois, c'est des jeux avec lesquels j'ai aucun souci pour proposer ça, des néophytes.
Non, mais justement, j'ai changé de groupe il y a pas très longtemps.
D'accord.
Pas de mon fait, quand j'ai changé, c'est pas j'ai enlevé les anciens, c'est juste qu'on se voit moins.
Ouais.
Et j'ai des nouveaux joueurs qui sont très néophytes.
Oui.
Et ça marche du feu de Dieu.
Ouais, parce qu'ils se rendent pas compte.
Fous qu'ils sont à quel point j'ai rien foutu, tu vois. Et ils ont l'impression que j'ai fait une partie de ouf.
Non, mais ils s'en foutent parce qu'ils ont passé une partie avec un pote,
soirée,
qui est animateur,
ouais.
qui est assez autour d'eux, qui a même plus besoin d'écran, entre guillemets, quoi. Et qui échange avec eux.
Moi non plus.
Je pense que c'est un format qui est très bien et qui, tout peut coexister. C'est ça qui est bien d'ailleurs.
Je vous fais ma petite conclusion.
Vas-y, mec.
Micro continue en fait sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu donnais des exemples en fait de questions qu'on va poser aux joueurs au milieu des scènes. Alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que lui il te regarde d'un sale œil et compagnie, mais en fait ça se pose même carrément au niveau plus large, au niveau de certaines motivations des personnages. Moi je me rappelle, on l'a dit, Blackbird, en fait tout ce qu'on sait au démarrage c'est qu'il veut retrouver son ancien amant, mais on nous dit pas pourquoi. Donc tu poses la question aux joueurs, est-ce que c'est par amour? Moi j'ai eu non, c'est parce qu'il me donne du fric. Bon c'est tout de suite, ça change un petit peu la donne, tu vois plus trop le mariage à la fin.
Exactement, t'as cette situation, c'est exactement ça, t'as cette situation, tu peux la prendre au niveau micro ou au niveau macro.
Il y a à même quoi ressemble l'Empire.
Exactement, j'allais en parler. Ouais. Voilà. Bon. Exactement ce que je disais. Bon,
je parlerai de mes soldats automates, parce que j'ai des joueurs qui me disent, ouais c'est des soldats automates, bon très bien, ok, on a un grenage et tout. Et une fois ils sont en tôle, et du coup, j'approche un garde, tu sais, genre pour essayer de le charmer. Tu viens de me dire que c'est des soldats automates à engrenage.
Ça marche pas.
Merde.
Pouah.
Exactement. Non,
mais c'est ça, c'est retourner leurs questions contre eux, etc.
Il y a un empire, mais ils disent pas ce que c'est. C'est toi qui poses les questions aux gens au moment où ils le rencontrent pour la première fois, ou même avant, si ça intervient. Je disais ma petite conclusion. Non, je vais commencer par ce que j'ai pas aimé, parce que j'aime bien finir par les trucs positifs. Ah, donc, l'organisation foireuse de l'ouvrage. Vraiment. C'est-à-dire que je crois que je l'ai dit en long, en large et en travers. Je pense que l'auteur aurait dû faire une dizaine de pages en plus. C'est pas comme si ça coûtait cher.
J'ai l'impression qu'il y avait aussi le parti pris de faire un truc en très peu de pages.
Ouais, mais à ce moment-là.
C'est ce dont j'ai
Ouais, mais dans ce cas-là, tu vires les illustrations, tu vires le plan de l'indomptable bleu, parce qu'on s'en fout de savoir que les planètes sont situées à égale distance. Il suffit de le dire. Il aurait pu gagner au moins une page ou une page et demie de texte là-dessus, tu vois, et ça aurait pas été moins bien. Donc ça je suis pas la grosse majorité de ce que je viens de dire d'expliquer, donc c'est pas dans le bouquin tout ce qu'on a dit avec Callisto, ça n'est
alors,
pas
voilà donc ce que vous ne trouverez pas dans
non mais voilà c'est ce que tu comprends encore une fois après avoir fait beaucoup de travail autour
et ces éléments tu les trouves dans le comment dire
le LB pour les nuls
voilà
alors, tu trouves beaucoup dans Lady Blackbird pour les nuls. Et tu les trouves pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont fait ce travail avant nous.
T'as aussi des choix. Là-dedans, tu vas trouver des trucs intéressants, comme on a 5 personnages pré-tirés. Si on est 4, lesquels faut-il choisir ? Est-ce qu'il y a des personnages qui sont plus importants, lesquels on peut
et c'est
de
super
de côté,
bien expliqué. Ah oui, d'ailleurs il y a un
pourquoi
truc.
Parce qu'il y a une dynamique entre certains, il y a un personnage gobelin qui va avoir un petit peu moins de dynamique, etc. Les clés sont vraiment bien pensées, ce qu'on trouve.
Alors, dans ce supplément, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'analyse qu'ont l'ensemble des joueurs qui ont joué ou qui connaissent ce système-là des personnages entre eux. C'est-à-dire quand tu le lis, c'est vraiment une leçon de caractérisation, comme on me dit dans le jeu vidéo ou dans la littérature, de caractérisation. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un personnage est intéressant, pourquoi faut le garder lui et pas l'autre, qu'est-ce qui le lie aux autres, qu'est-ce qui le lie à l'extérieur et à l'intérieur. Donc t'as vraiment une cohérence interne.
C'est vrai que les clés on louche un petit peu du côté des relations qu'il peut y avoir
complètement,
mais sauf que il y a un truc en plus.
C'est-à-dire le fait de pouvoir le racheter et tout ça, c'est...
Oui, si ça te plaît pas d'être en opposition avec machin à l'autre bout de la table, à un moment, t'en as marre, t'as joué le truc, bon voilà, on a joué ça pendant une heure, pouf, tu rachètes ta clé, tu t'achètes autre chose qui t'intéresse, tu le joues pareil pendant deux heures, tant que ça t'amuse, et après tu passes à autre chose, quoi.
Et mais vraiment dans ce supplément t'as vraiment cet avantage là de, moi je trouve que c'est, j'ai trouvé ça très intéressant, mais à un autre niveau que le jeu de rôle lui-même, vraiment pour dire comment est-ce qu'on crée des personnages qui se correspondent. Et alors, oui, le problème s'est posé dans le, je vais en parler un petit peu après, dans le troisième chapitre, dans le chapitre 3. Alors le Lady Blackbird, c'est un bouquin de 12 pages. T'as le supplément, donc Lady Blackbird pour les nuls. T'as aussi un chapitre 2 qui a été traduit aussi par Gauthier.
Ouais, tout à fait.
Qui est différent, tu vas en parler parce que moi je l'ai pas lu, mais c'est toi qui vas en parler juste après. Et t'as un chapitre 3 qui est en cours d'écriture par Gauthier et qui est franco-français.
D'accord, c'est pour ça que c'est assez... je connaissais pas.
Ouais, c'est pas une traduction. Ouais. Donc, le background, je disais, il est éclaté un petit peu partout, dans la demi-page initiale, dans les pré-tirés, dans les jets, dans les clés, dans les secrets, dans les traits, etc. Donc, c'est pas fait d'une traite, c'est vraiment éclaté partout. Moi, j'aime. C'est un désavantage, en même temps, c'est un avantage, moi, j'aime bien aussi. La plupart des éléments doivent être inventés. Moi, je trouve que ce que j'ai lu est super évocateur et j'ai été très frustré de ne pas en voir plus. Franchement, je sais pas pourquoi, ça m'a fait kiffer.
Ah, t'as encore un autre supplément qui existe en anglais.
Ouais, le compagnon, j'ai
entendu. Ouais, le compagnon, ça, c'est des gars qui ont vraiment, se sont dit, bon, allez hop, on compile tout ce qu'on peut trouver comme secret, comme clé, inventé, comme trait. Alors, il y en a des pléthores et là, tu peux te dire,
t'as même une création de perso.
Je peux créer n'importe quoi, ils parlent des planètes. Bien sûr, là, ils commencent à fixer des choses, à définir que l'Empire ressemble à ça, les soldats ressemblent à ça. Mais
c'est pas forcément. Ouais, enfin bon. Donc il reste pas mal de fautes et de coquilles dans la version française. Ça a déjà été remonté, j'en ai parlé.
Hein ? On est habitué.
Ouais,
non, mais c'est depuis que t'as lu Mondblad, maintenant t'es difficile.
Ouais, c'est vrai. Alors côté positif, allez.
Oui.
Le bouquin lui-même est vachement joli. La mise en page est sympa, les illustrations sont bien, franchement, enfin c'est pro quoi.
Ouais.
Le système de jet, il est absolument simplissime. Et je dis pas ça parce que en gros j'ai créé le même.
Non, en fait, t'as pompé en fait.
Non, parce que c'est toujours les idées, tu sais, qui dans l'idée
sphère. C'est simple, ça marche bien.
Dans l'air du temps, donc ça marche très bien. Le jeu se veut très haut en couleur avec de vrais héros qui peuvent faire des trucs de héros. Donc, je répète, on joue pas des level 1 qui doivent battre des rats. C'est, vrais persos qui ont des vraies compétences.
Au début, les joueurs ont un peu peur et tout. Puis à un moment, ils disent, mais non, en fait, tu cumules tous tes traits. Donc, tu tires avec deux flingues et machin et tout ça. Mais jette plein de dés. Mais oui.
Mais pourquoi tu jettes deux dés? Lance 10 dés. Mais oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux pas lancer des dés. Mais si, attends, j'ai des dés.
Regarde, t'as plein de réserves et tout.
T'as plein de trucs, clac. Donc, voilà, tu lances des trucs. Les pré-tirés sont pas juste là pour faire gagner du temps. C'est des vrais rôles avec des liens avec l'univers, avec tous les autres persos. Pour moi, le one-shot entier ne tient qu'à ces personnages-là. C'est-à-dire, tu construis tout autour de ça. Mmh. À l'extrême limite, tu pourrais même virer le background, finalement.
Tu peux virer le scénar, en fait. Quasiment n'importe quoi, en fait, en utilisant les clés des personnages. Voilà.
La manière de jouer implique des parties qui sont normalement différentes à chaque fois. Comme tu le disais tout à l'heure, j'ai même lu sur le forum qu'il y avait un gars qui avait fait jouer des gens qu'il ne connaissait pas. Et l'un des joueurs en était à sa cinquième partie.
Ah!
Voilà. Et voilà. Donc je crois que plus que jamais, donc dans ce genre de truc, l'important c'est pas vraiment l'arrivée, c'est pas le fait d'avoir réussi le scénario, c'est vraiment le chemin, le voyage et tout ce que t'as construit qui te permet de te faire arriver. Donc je disais, il y a un deuxième chapitre avec une autre histoire c'est une autre histoire avec d'autres prêts tirés.
Alors c'est pas fait, ça, je pense, je suis pas certain que ça a été fait par les mêmes personnes.
C'est pas le même auteur.
Ouais, et voilà,
et ils sont pas liés du tout, les mecs ?
Bah,
je sais pas. Je dis peut-être une bêtise.
Je distribue des fichounettes à mes camarades. c'est pas les traductions actuelles de la nouvelle version, en fait. J'avais fait mes muses avec ça aussi. Hop là, allez. Donc, on va retrouver en fait vraiment des personnages du même style. Mais en fait, le cadre du scénario va être un petit peu plus version huis clos. Je crois que
moi j'ai un espion impérial.
Moi j'ai un gobelin bricoleur et contrebandier.
Oui, on retrouve un gobelin comme dans le premier. Gobelins, on retrouve vraiment un peu le même style, hein, des nobles avec de la magie et compagnie, etc. Et justement, tout ce qu'on a expliqué qui fait que ça marchait bien sur le premier, moi j'ai trouvé que sur le deuxième ça marchait moins bien. C'est-à-dire que les clés, le mix entre les clés, les secrets et les traits va être moins bien agencé.
Mm-hmm.
Ce qui fait qu'on a beaucoup de choses. J'estime que tu ne peux pas l'utiliser si ton personnage n'a pas fait certains choix. C'est-à-dire que j'estime que si tu veux rentabiliser ce qui est marqué sur ta fiche, il faut orienter ton personnage vers certaines choses.
Cela dit, sur la fiche que tu viens de me passer, je peux quand même appeler un poulpe céleste.
Ouais,
ouais, mais ça fait partie des créatures qui sont sous le gaz.
Tu fais céleste.
Oui, en
fait, là, c'est plus Lady Blackbird, c'est Lord Firefly en fait.
Ouais, même pas en fait. Ouais, l'histoire c'était quoi ? Il y a quelque chose de pas net sur un vaisseau. Il y a t'as une espèce de vaisseau qui arrive dans l'atmosphère d'une des planètes, d'une planète marchande. Vaguement traduit, voilà, c'est un vaisseau de guerre impérial, long d'un demi-kilomètre et lourdement armé, qui se tient fixement au-dessus de la planète, restant muet face aux tentatives de communication. Donc son membre couvre les continents. temps, etc. Et en fait, t'as la poignée de personnages, des héros qui vont aller à bord et qui ont tous des intérêts totalement divergents. Et du coup, là, on se retrouve, on est un peu trop dans la divergence, parce qu'il y en a un qui va vouloir aller du côté des pirates, et s'il le fait pas, c'est une partie de ses traits qui lui permettent de gérer un équipage qui lui sert à rien. Un autre qui va vouloir aller récupérer du côté des impériaux. Une autre qui est là sans trop de raisons particulières. J'ai pas du tout retrouvé, moi, les mêmes...
La même dynamique.
Les mêmes dynamiques. Le fait qu'on est en huis clos, et oui, bien évidemment, une espèce de vaisseau, en plus, coule progressivement. Et comme on a dit, hein, c'est de l'espace, mais c'est pas vraiment de l'espace. C'est un peu comme de la mer. Donc, quand on tombe au-dessous d'un certain niveau de gaz et compagnie, ça commence à se corroder. Il y a des poulpes célestes, des anguilles électriques volantes et compagnie, quoi. Et du coup, on se retrouve avec... quand les choses vont mal se passer dans ce scénario-là, bah, le vaisseau continue un petit peu de couler, par exemple. Du coup, on est dans un huis clos, on a un temps limité, et c'est l'inverse de ce qu'on a dans les Deep Blackbird, où on n'a pas de temps limité, et on a l'espace infini devant nous. Bon, l'espace infini du Grand Bleu, ce qui est déjà assez restreint, mais du coup, ça renferme beaucoup plus. Et dans les choix que ça fait, bah, du coup, on optimise des fois le choix en disant, bah, non, on n'a pas le temps, on ne fait pas ci et pas ça, ou on ne peut pas se diviser en deux groupes. Et du coup, les clés, pour moi, n'ont pas bien tourné. Et avec, je sais plus, par exemple, un exemple que j'avais en tête, c'est que tu dois avoir un personnage qui a le secret du tireur d'élite, mais il sait pas tirer de base.
c'est vraiment très secret, alors.
C'est secret même pour lui, en fait.
Bah, ouais.
C'est ça.
Mais en fait, le contexte a l'air cool. Finalement, il suffit de retravailler un peu les persos pour
oui,
que
c'est
ça passe.
Ouais, en fait,
finalement,
c'est ça,
il suffit. Le problème, c'est que tout le travail
sur les personnages.
C'est l'inverse de ce qu'on vient. Ouais, c'est l'inverse de ce qu'on a constaté sur le premier lead Blackburn. Tout tient parce que les personnages sont bien faits, et pour moi, tout celui-là, tout tient pas parce que les personnages sont pas super bien faits. Donc, à la fin de la partie, j'avais essayé de dire aux joueurs, bah voilà, si vous voulez, on est un peu déçu et tout, est-ce que vous voulez qu'on réfléchisse à les refaire, les personnages, bah, à l'aide du compagnon, en fait, hein. Ouais. Personnages qui sont peut-être un chouille moins puissants, je crois qu'ils ont tous un trait en moins, enfin une étiquette en moins, etc. Et du coup, bah, sur les jets de dés, ça se ressent, parce que tu fais moins les trucs de Cador. Ouais. Justement, ce qui était passé sur le premier scénario, on dit, mais on est moins puissant là, quand même. Oui. Voilà, mais bon, après, c'est... Du coup, je l'ai fait qu'une fois, et puis, bah ouais, faute de retour, à l'époque, j'ai pas réessayé plus loin que ça de refaire les persos, mais on pouvait en faire quelque chose d'intéressant, quoi.
Moi, je terminerai juste par, le jeu est bien, si, mais il demande il y a une courbe d'apprentissage un petit peu raide, entre guillemets. Moi, j'ai mis une journée, disons, bien concentrée, à aller regarder les différentes ressources pour capter comment ça se passe. Bon, j'ai un petit peu d'expérience, mais pour quelqu'un de pas complètement néophyte, ça passe, hein, en vrai. Hein, faut pas trop. Moi, j'ai l'air de gueuler un peu, parce que, comme pour Apocalypse World, pour moi, c'est des trucs excellents, mais sur lequel il manque les 10 ou 20% restants qui en feraient un truc vraiment extraordinaire.
Après, la différence avec Apocalypse World, c'est peut-être que là, c'est gratuit, en fait.
Ouais, bah, enfin, Apocalypse, c'est globalement gratuit ou pas loin, quoi. Enfin, c'est...
Ouais, t'as quand même... Ouais, ouais, voilà, t'as toutes les fiches et les machins.
T'as quasiment tout au cas où, t'as quasiment tout. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'en ai terminé. Si Calisto l'a terminé aussi, je pense qu'on peut passer à autre chose.
Bien, merci, messieurs. Maintenant, il faudrait quelque chose de plutôt court.
Bon, on va faire Never Unprepared.
Ok, ça marche.
Il semble que Calisto avait évoqué Mask et Eureka, qui sont deux suppléments. Il y a quelqu'un qui avait évoqué à cette table,
c'est pas moi,
en mon absence.
Moi,
bon, alors, je vous fais rapidos. Gnomes 2, c'est une équipe de gars aux US qui écrivent, qui ont un blog, développé.
C'est une espèce de fanzine, en gros, non?
C'est un groupe de créatifs, un collectif d'auteurs
comme
qui font
le
des suppléments. Et ils se sont mis il y a quelques années à faire des suppléments. Et ils avaient fait un premier supplément qui s'appelle Eureka, qui est un supplément qui compile des idées de scénar. Des scénars qui tiennent en 30-40 lignes avec plein de mots-clés. Donc vous cherchez un scénario. Alors il y a les différents thèmes, hein, médias, fantastique, horreur, science-fiction et compagnie. Et vous cherchez un thème genre maison, course-poursuite, machin bidule. Il y a, je sais pas, 300 mots-clés différents. Tous les idées de scénario sont listées comme ça. C'est super pratique pour pouvoir improviser un truc avec une idée qui vous paraît sympa. Ça vous écrit le scénario rapidement sans vous faire le développement complet. Hein. Mais c'est très bien fichu. Ensuite, ils avaient fait un autre supplément qui s'appelle Masks, qui est un supplément de PNJ, en fait. Mmh. Des présentations de PNJ que vous pouvez réutiliser. Il y a vraiment de très bonnes choses aussi. Toujours même principe. Des index de malade avec plein de mots-clés qui vous permettent de pouvoir aller rebondir et aller chercher des choses. Jamais de carac, hein. Et dans le supplément de scénario et dans le supplément de PNJ, il n'y a pas de caractéristiques en tant que telles.
Oui. Oui, parce que c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les idées, quoi.
Exactement. Et donc l'idée, voilà, c'était ça. Et en fait, bon, moi, j'avais acheté les deux, je les avais comme précommandés, machin, tout ça. Et bon, ils sont pas bons en communication, donc j'avais pas été averti qu'il y avait des suppléments qui sortaient après.
Ah.
Voilà, donc j'ai pas reçu les mails et j'ai raté. Puis un jour, je vais voir le site et je fais, eh, mais c'est quoi cette histoire? Il y a deux suppléments qui sont sortis. Un supplément qui s'appelle Never Unprepared, qui est un scénario sur la préparation de partie.
Et un scénario sur la préparation
de partie. Un supplément, peut-être.
Ah, excusez-moi. Un supplément sur la préparation de partie. Et un autre qui s'appelle Odyssée, qui est un supplément sur la préparation de campagne.
D'accord.
Et la gestion de campagne. Donc là, je vais vous parler de Never Unprepared. Donc, c'est un supplément écrit par Phil Vecchione, donc un des membres du collectif. Son principe, il est assez simple, c'est que l'idée, c'est de nous fournir des méthodes pour pouvoir préparer une session, sachant que généralement, tous les MJ, quand on leur parle de préparation de partie, ils ont plutôt des sueurs froides parce qu'ils se disent « Oh putain, je vais en chier, ça va être l'horreur, j'en ai marre !»
Sauf s'ils ont suivi ton excellente formation.
Exact, merci.
Sauf s'ils jouent Apocalypse World.
C'est ça, exactement. Mais là, c'est plutôt sur l'approche des scénarios qui nécessitent de la préparation. Le but du jeu, détaille rapidement pour dire le but du quoi de la préparation, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir justement pas se trouver piégé, avoir une petite voix, la petite voix derrière vous qui va vous dire quoi faire quand vous commencez un peu à perdre le fil. Et l'idée de cette préparation, pour que ça fonctionne, c'est qu'elle doit être accessible, organisée, efficace et fiable. Grosso modo, comme une base de données, en fait. Mmh. Ni plus ni moins. Et donc, dans ce supplément qui est en A5, qui doit faire un peu de 120 pages en A5, il vous décrit dans un premier temps les différentes phases de préparation d'une partie, selon ses principes, de ce qu'il, lui, a détaillé au fur et à mesure des années qu'il a travaillé, pour donner justement des pistes aux gens qui sont un peu perdus, qui à chaque fois se perdent dans leur préparation et au final n'ont jamais ce qu'il leur faut pour eux. Donc il décrit des phases, donc le brainstorm, la sélection, la conceptualisation, la documentation et après la relecture. Pour vous dire rapidement, je vais vous faire rapide, hein, parce que j'ai bien compris. Le brainstorm, évidemment, c'est de rechercher des idées.
Encore une bonne dizaine de minutes.
Ah bon, ça va.
On travaille sous pression, c'est une honte. ça rappelle la journée.
Donc la phase de brainstorm, le but du jeu, c'est de rechercher des idées sans les organiser et sans en virer aucune. Donc vous notez des choses, des idées de scène, des idées de PNJ, de ce que vous voulez, sans absolument chercher le moindre fil rouge. C'est vraiment des choses en vrac et dans le supplément, évidemment, il vous propose notamment des questions types si vous êtes un petit peu perdu pour cette phase-là. On a toujours des phases sur lesquelles on est meilleur que sur d'autres. La deuxième phase, qui est la phase de sélection, le but du jeu, c'est pour commencer, c'est de savoir ce qu'éclatent les joueurs. Évidemment, connaître le type de MJ qu'on est, ça peut aider. Choisir un système de jeu qui...
Il y a un quiz, quel MJ êtes-vous?
Non, il n'y a pas de quiz.
Non, mais il y a une liste de questions en fait qui permet de savoir dans quoi tu es.
Il y a des questions quand même.
Être un bon MJ avant l'été.
C'est pas dans ce type là. Mais voilà, choisir un système de jeu qui va renforcer le thème et l'ambiance de ce que vous voulez. Et évidemment, choisir un univers qui soit en adéquation avec les idées que vous allez développer dans le truc. La troisième étape, c'est l'étape de conceptualisation. Le but, c'est de transformer des idées de votre brainstorm en scène, en scénario, en campagne. Et pareil, il y a toujours des questions types, mais il vous développe le côté que typique journaliste, qui, quoi, où, pourquoi, comment, bref, quoi, je ne sais plus, le QQOCP ou je ne sais plus quoi, où il vous parle de ce que vous avez besoin pour la conceptualiser.
Qui, quoi, quand, comment, pourquoi, bon,
bref,
je ne sais plus quoi.
Ouais, je ne sais plus. Donc le but de savoir le but, les motivations des PJ, l'opposition quelle est-elle, les motivations de l'opposition, les alliés des PJ, les alliés de l'opposition, quelques autres PNJ, etc., etc.
L'opposition des alliés de l'opposition.
Voilà. Et avec les différentes
l'opposition phases. De mon opposition, ouais. L'allié de mon.
Le développement, en fait, comment, qu'est-ce que vous devez avoir? Une introduction, un développement, un climax, un dénouement, bref. Mm-hmm. Des choses vraiment classiques qu'on retrouve dans les constructions de scénarios. Ensuite, vous avez la phase de documentation. Alors, évidemment, le but de cette phase de documentation, qui souvent, par les MJ qui se plaignent de la préparation, en disant « ouais, non, ça va être l'enfer », c'est évidemment des gens qui écrivent trop. Le but du jeu, c'est d'écrire que ce dont on a besoin, parce que c'est vraiment censé être la canne qui va vous aider quand vous maîtrisez. Putain, merde, c'est quoi déjà? Ben, moi, par exemple, j'aime inventer des noms à la volée, c'est un truc que je déteste. Donc, j'ai une liste de noms, ben, le problème, il est réglé. Donc, ça, c'est des choses comme ça. Ça va être, vous, évidemment, noter les pages de référence pour les règles que vous allez avoir besoin de checker en cours de route. Parce que le but du jeu, évidemment, en jeu, c'est qu'il n'y ait pas de silence ou de pause du genre « Ah, merde !» Parce que si vous avez mis autant de temps à installer une ambiance, si vous la cassez en 10 secondes parce qu'il vous manque juste une référence de page... c'est quand même un peu ballot. Donc ça va être aussi donc dans la documentation préparée. Bon, donc, comme je vous dis, moi pour moi je prépare des listes de noms généralement, mais ça va être des phrases type de PNJ, ça peut être évidemment l'apparence du PNJ, ses objectifs,
son caractère,
des profils types pour vos PNJ, ouais. Comme ça vous n'avez pas à vous emmerder avec les caracs. Il y a des jeux où c'est plus facile que pour d'autres, hein. C'est sûr que si vous jouez à Donj 3, bah, pour faire vos PNJ des profils types, non, il va falloir que vous tapiez la création des PNJ, alors que à Savage World ou à ce que vous voulez, à Over the Edge, vous n'avez pas à vous emmerder avec ces conneries. Donc c'est plus simple. Et ensuite, il y a la phase de relecture, de finalisation. Là, l'idée, c'est de relire ce que vous avez fait en assumant trois rôles. Le rôle de relecteur, donc celui qui vérifie que les notes sont complètes, elles sont précises. Donc ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est le rôle de réalisateur, donc qui vérifie si les scènes et le scénario sont logiques, si c'est intéressant, s'il y a une continuité. Et en fait, le dernier rôle, celui du playtester, donc qui vérifie que l'accroche de démarrage du scénar... elle donne envie aux joueurs, quoi. Ça donne envie ou non, putain, c'est une os, ton truc. Et qui va simuler aussi dans sa lecture comment il verrait le scénario éviolé, qu'est-ce qu'il ferait lui en tant que PJ. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir assumer ses rôles. C'est pas forcément des choses auxquelles on pense. Mmh. On a souvent le réflexe de réagir réalisateur plutôt que playtester ou relecteur bête. Mais donc, voilà. Le but du jeu, c'est vraiment. Si vous n'arrivez pas à vous retrouver dans vos notes, c'est que vous avez mal fait votre préparation. Si vous découvrez à ce moment-là de la relecture que vous avez des gros problèmes, ben au moins vous pouvez les corriger, mais il peut y avoir des problèmes, de gros problèmes dans vos scénarios parce que vous n'avez pas bien réfléchi. Donc en jouant ces rôles, c'est intéressant. Mmh. Et au final, évidemment, le but ultime, c'est si vous vous faites surprendre par vos joueurs, avoir ces petites notes à côté de vous, bien préparées, bien organisées, que vous pouvez retrouver facilement, pour éviter de vous retrouver comme un con et faire voilà. Donc c'est un peu ça le but. Ce supplément, c'est à ça qu'il sert. La note d'intention de l'auteur, c'est de dire ben voilà, la préparation, on en parle beaucoup en disant que ça nous fait chier pour un grand nombre de MJ. Il y en a qui adorent ça, mais on communique pas entre MJ autour de la préparation. On pourrait profiter de l'expérience de chacun et mettre tout en commun, et il y a jamais personne qui a sorti un supplément pour essayer de mettre en commun des choses.
Ouais, mais c'est vrai que finalement, quand des MJ se retrouvent, ils auront plutôt tendance à parler de la partie elle-même.
Des idées qu'ils ont pu avoir au brainstorm, dire « Oh ouais, ça serait sympa de faire un scénar sur ça, machin. » Mais ils ne parlent pas de la préparation en tant que telle et de savoir ce qui fonctionne.
C'est un peu comme le salaire, en fait. Chez les Français, les MJ n'échangent pas leur secret de préparation.
Alors, je pense que l'Express devrait faire un hors-série sur la préparation du MJ.
Alors, j'oublie une partie du supplément quand même. Il parle des outils de préparation, évidemment, donc il va parler de comment utiliser des OneNote, des Dropbox, des Evernote, des ce que vous voulez, voir comment éventuellement un Moleskine où vous allez écrire des idées mais une par ligne, bref, pour toutes les différentes phases, il en parle. Il parle aussi de l'organisation, là il va plus loin hein, dans le sens de voir dans votre emploi du temps, à la semaine, quand vous pouvez dégager du temps et selon le temps, dans quel mode de disposition vous êtes pour établir, bah, par exemple, quand vous êtes en phase de haute créativité, si vous êtes plutôt en haute créativité le matin que le soir, vous préparez... Vous prévoyez le brainstorm ou la conceptualisation plutôt quand vous êtes en phase up. Et quand vous êtes plutôt en down, ça va être plutôt la sélection, la documentation, des choses comme ça. Donc il parle de ce côté-là. Et puis après, bah, évidemment, et après il va parler.
T'es sûr de t'endormir là.
Ouais, c'est clair. Et après, il va parler en fait des présentations de préparation pour justement. Il développe vraiment un petit peu tous les aspects. Il propose des gabarits aussi de session, des gabarits de scène, des gabarits de PNJ, de scène de combat. Et à la toute fin, il parle vraiment de la préparation minimum. Comment la gérer. Donc pour moi, c'est un supplément qui est. Il remplit bien son office. Après, moi, j'ai pas trouvé de truc exceptionnel dedans. C'était intéressant d'avoir une méthode qui est la méthode de l'auteur, qui ne correspond pas forcément à votre façon de voir les choses. Il y a des endroits où il a dit des choses que je trouve intéressantes qui me disent « Ah ouais, c'est pas con, tiens. Ouais. »
D'accord.
Mais globalement, j'ai trouvé pas ça passionnant à lire, objectivement.
Bah ouais, c'est une méthode.
C'est un peu comme lire un tutoriel de
est-ce que ça fait pas
de
un
Photoshop
peu, Est-ce que ça fait pas un peu guide d'empowerment à l'américaine, genre Getting Things Done ou des trucs comme
alors,
ça
alors oui, si, ça peut faire penser à des bouquins de développement personnel, donc type David Allen et Getting Things Done. Il en parle d'ailleurs de Getting Things Done. Du bouquin de Robin Laws sur Robin Laws Game Good Mastering. Game Mastering Book, bref. Il parle de choses comme ça, mais en effet, pour moi, c'est le bouquin de développement personnel de MJ pour Rollist.
Excuse-moi, mais c'est super intéressant. Ce que tu as décrit tout à l'heure, moi, c'est des trucs que au final, j'ai fini par faire, tu vois, par exemple, le brainstorming, les créations de scènes que je veux placer, les assemblages, les questions que tu te poses, etc. Mais pour en arriver à préparer des trucs comme ça, il m'a fallu beaucoup de temps, d'essais, d'erreurs, etc.
Voilà.
Donc c'est super intéressant de voir ça dans un bouquin.
Voilà. Voilà. C'est un bouquin utile. Vous attendez pas à être absorbé par le bouquin de la première ligne à la dernière. Ça remplit son office et c'est intéressant si vous intéressez à la préparation de partie et que vous êtes vraiment mauvais, par exemple. En voilà.
Ou alors jouer à Dungeon World.
Voilà, c'est ça. C'est l'autre solution.
D'accord. Merci, Michael. Bon, et bien maintenant, nous allons faire une petite pause et nous revenons tout de suite après.